Droits de l'homme, seconde partie, réunissant les principes et la pratique, par Thomas Paine, secrétaire du Congrès pour le département des affaires étrangères pendant la guerre d'Amérique et auteur de l'ouvrage intitulé Le sens commun, traduit de l'anglais sur la troisième édition, à Paris, chez Buisson et Testu, 1792. À Monsieur de Lafayette. Monsieur, après une connaissance de près de 15 ans, dans des situations difficiles en Amérique, et après différentes consultations en Europe, je trouve du plaisir à vous présenter ce petit traité en reconnaissance des services que vous avez rendus à ma bien-aimée Amérique, et comme une marque de mon estime pour les vertus publiques et privées que je sais que vous possédez. Le seul point sur lequel j'ai jamais remarqué que nous différions n'était pas sur les principes du gouvernement, mais sur le temps. Pour moi, je crois qu'il est également injurieux pour les bons principes de souffrir qu'ils languissent que de les mettre trop tôt en avant. Ce que vous croyez pouvoir accomplir en 14 ou 15 ans, je puis le croire praticable en bien moins de temps. Il me paraît que les hommes sont toujours assez mûrs pour entendre leurs véritables intérêts, pourvu qu'on les leur présente clairement et de manière à ne point faire naître de soupçons d'égoïsme ou qu'on ne les offense pas en prenant trop d'ascendant. Là où nous désirons faire des réformes, il ne faut pas faire de reproches. Lorsque la révolution de l'Amérique fut établie, j'étais enclin à me retirer tranquillement pour jouir du calme. Il ne me paraissait pas qu'il pût ensuite se présenter aucun objet assez grand pour me faire quitter la tranquillité et exciter en moi les mêmes sensations que j'avais éprouvées auparavant. Mais quand le principe, et non pas le lieu, est la cause motrice de l'action, je vois qu'un homme est partout le même. Me voilà de nouveau jeté dans la vie publique. Comme je n'ai pas droit d'attendre des jours aussi longs que vous pouvez vous-même espérer, je suis résolu de travailler aussi vite que je pourrai. Et comme je désire ardemment votre compagnie et votre assistance, je souhaiterais que vous attestiez l'exécution de vos principes et que vous me rattrapiez. Si vous faites une campagne le printemps prochain, il est néanmoins très probable que cela ne sera pas nécessaire. J'irai vous joindre. S'il arrivait que la campagne commençât, j'espère qu'elle finira par l'extinction du despotisme germanique et par l'établissement de la liberté en Allemagne. Quand la France sera entourée de révolutions, elle sera en paix et en sûreté, et conséquemment ses impôts, ainsi que ceux de l'Allemagne, diminueront graduellement. Votre ami sincère et affectionné, Thomas Paine, à Londres, le 9 février 1792. Préface. Quand je commençais le chapitre intitulé « Conclusion » dans la première partie des droits de l'homme, publié l'année dernière, c'était mon intention de le faire beaucoup plus long. Mais en repassant dans mon esprit tout ce que j'avais dessein d'y ajouter, je trouvais ou qu'il fallait que je rendisse l'ouvrage trop volumineux ou que je circonscrivisse trop mon plan. C'est pourquoi je le terminais aussitôt que le sujet me le permit et réservais ce que j'avais de plus à dire pour une autre occasion. Plusieurs autres raisons contribuèrent à me faire prendre cette résolution. Je voulais savoir comment un ouvrage, écrit dans un style et dans un genre si différent de ce que l'on avait coutume de voir en Angleterre, serait reçu du public avant d'aller plus loin. Un vaste champ s'ouvrait au dessein des hommes par le moyen de la Révolution française. L'opposition injurieuse de M. Burke amena la controverse en Angleterre. Il attaqua des principes qu'il était informé que je défendrais, parce que je les crois bons, parce que j'ai contribué à les établir et que je me crois obligé de les défendre. S'il n'avait pas provoqué la controverse, j'aurais probablement gardé le silence. Une autre raison qui m'engagea à différer le reste de l'ouvrage fut que M. Burke promit, dans sa première publication, de renouveler le sujet dans une autre occasion et de faire une comparaison entre ce qu'il appelle la Constitution anglaise et celle de France. C'est pourquoi je me tiens en réserve pour l'attendre. Il a depuis publié 2 ouvrages sans s'acquitter de sa promesse, qu'il n'aurait certainement pas omise si la comparaison avait été en sa faveur. Dans son dernier ouvrage, son appel des nouveaux aux anciens Whigs, il a cité environ 10 pages des droits de l'homme. Et après s'être donné la peine de le faire, il dit qu'il ne tentera pas de les réfuter, voulant dire les principes qui y sont contenus. Je connais assez M. Burke pour savoir qu'il l'aurait fait s'il avait pu. Mais au lieu de les contester, il se console immédiatement après en disant qu'il a fait sa part. Cela n'est pas vrai. Il n'a pas tenu sa promesse en comparant les deux constitutions. Il suscita la controverse, il jeta le gantelet et évita ignominieusement le combat. Il est maintenant à l'unisson de son opinion que le siècle de la chevalerie est passé. Le titre ainsi que la substance de son dernier appel, son appel, fait sa condamnation. Les principes n'ont besoin que de leur propre mérite, et s'ils sont bons, ils se soutiendront. Les mettre sous la protection de l'autorité des autres hommes, comme l'a fait M. Burke, c'est les rendre suspects. M. Burke n'aime pas trop à céder une partie des honneurs, mais dans ce cas-ci, il tâche artificieusement de se décharger d'une partie de sa disgrâce. Mais qui sont ceux à qui M. Burke a fait son appel? Une bande d'enfants en fait de philosophie et des demi-politiques de l'autre siècle. Des hommes qui n'allèrent pas plus loin dans l'étude des principes que cela pouvait être utile à soutenir leur parti. Des hommes qui ne pensèrent jamais à la nation, et tel a été le caractère de tous les partis depuis ce temps-là jusqu'au moment actuel. La nation ne voit rien dans de pareils ouvrages ou dans une pareille politique digne de son attention. Peu de choses peuvent faire mouvoir un parti, mais il faut quelque chose de grand pour émouvoir une nation. Quoique je ne vois rien dans l'appel de M. Burke qui soit digne de beaucoup d'attention, il y a néanmoins une expression sur laquelle je ferai quelques remarques. Après avoir cité nombre de passages des droits de l'homme et refusé de combattre les principes contenus dans cet ouvrage, il dit « Cela sera probablement fait, si de pareils écrits sont jugés dignes d'une autre réfutation que de celle de la justice criminelle, par d'autres qui pourront penser comme M. Burke avec le même zèle. » En premier lieu, cela n'a pas encore été fait par qui que ce soit. Il n'y a pas eu moins de 8 ou 10 pamphlets de publiés par différentes personnes pour servir de réponse aux droits de l'homme, et aucun d'eux, à ma connaissance, n'a été jusqu'à une seconde édition. Leurs titres même ne sont pas généralement connus. Comme je n'aime pas à multiplier les publications inutiles, je n'ai répondu à aucun d'eux. Et comme je crois qu'un homme peut lui-même perdre sa réputation en écrivant, tandis que les écrits des autres ne sauraient la lui faire perdre, j'ai soin d'éviter cet écueil. Mais en voulant d'un côté éviter les publications inutiles, je voudrais de l'autre écarter de moi tout ce qui peut paraître comme un orgueil dédaigneux. Si M. Burke ou toute autre personne de son parti veut produire une réponse aux droits de l'homme, dont on ait distribué un nombre d'exemplaires montant à la moitié ou même au quart des exemplaires des droits de l'homme, je répondrai à son ouvrage. Mais jusqu'à ce qu'il ait fait cela, je me laisserai tellement guider par le public, et le public sait que je ne suis pas un flatteur, que je ne croirai pas qu'il soit digne de moi de répondre à ce qu'il ne trouve pas digne de lire. Je suppose qu'il s'est au moins distribué, tant en Angleterre qu'en Écosse et en Irlande, 40 à 50 000 exemplaires de la première partie des droits de l'homme. Je vais maintenant faire quelques observations sur le reste de la citation de M. Burke. « Si, dit-il, de pareils écrits sont jugés dignes d'une autre réfutation que de celle de la justice criminelle. » Le lecteur pardonnera le calembour, ce serait vraiment une justice bien criminelle qui condamnerait un ouvrage parce qu'on ne peut pas le réfuter. La plus grande peine qu'on pourrait lui infliger serait de le réfuter. Mais en suivant la méthode indiquée par M. Burke, la condamnation tomberait finalement sur l'injustice du procès et non pas sur l'ouvrage. Et dans ce cas-là, j'aimerais mieux en être l'auteur que le juge ou les jurés qui le condamneraient. Mais pour en venir directement au but, j'ai été d'un avis différent de plusieurs gens de loi sur le sujet des poursuites, et je trouve qu'ils reviennent à présent à mon opinion. Je vais ici exposer mon opinion d'une manière étendue et en même temps aussi concise que possible. Je vais d'abord supposer un cas par rapport à une loi quelconque et la comparer ensuite avec un gouvernement ou avec ce que l'Angleterre est, ou a été appelée, une constitution. Ce serait un acte de despotisme, ou de ce que l'on appelle en Angleterre pouvoir arbitraire, de faire une loi pour défendre d'examiner les principes, bons ou mauvais, sur lesquels cette loi ou toute autre serait fondée. Si une loi est mauvaise, autre chose est de s'opposer à son exécution que d'exposer ses erreurs, d'argumenter sur ses défauts, et de faire voir pourquoi on devrait la révoquer, ou pourquoi on devrait lui en substituer une autre. J'ai toujours été d'avis, et j'ai toujours pratiqué cet avis, qu'il vaut mieux obéir à une mauvaise loi en se servant en même temps de tous les arguments possibles pour en faire voir les défauts et en procurer la révocation, que de la violer par la force, parce que l'exemple d'enfreindre une mauvaise loi pourrait conduire à l'infraction de celles qui sont bonnes. Il en est de même par rapport aux principes et aux formes du gouvernement, ou à ce que l'on appelle la Constitution et aux partis dont elles sont composées. C'est pour le bien des nations, et non pas pour les émoluments ou pour l'agrandissement de certains individus, que les gouvernements doivent être établis, et que le genre humain fait la dépense de les entretenir. Donc, en raisonnant comme ci-devant, les défauts de tout gouvernement et de toute constitution, quant aux principes et à la forme, doivent être aussi ouverts à la discussion que les défauts d'une loi, et tout individu contracte l'obligation de les faire connaître. Quand ces défauts et les moyens d'y remédier sont généralement connus d'une nation, cette nation réforme son gouvernement ou sa constitution dans un cas, comme le gouvernement avait révoqué ou réformé la loi dans l'autre. L'opération du gouvernement est restreinte à faire ou à exécuter les lois. Mais c'est à une nation qu'appartient le droit de créer ou de régénérer les constitutions et les gouvernements. Conséquemment, ces sujets, comme sujets d'enquête, sont toujours soumis de droit à l'inspection d'une nation et ne sauraient, sans envahir les droits généraux de ce pays, devenir des sujets de poursuite. Sur ce terrain, je combattrai M. Burke quand il lui plaira. Il vaut mieux que tout l'argument soit à découvert que de l'étouffer. Ce fut lui qui ouvrit la controverse, il ne doit pas l'abandonner. Je ne crois pas que la monarchie et l'aristocratie existent encore 7 ans dans aucun des pays éclairés d'Europe. Si on peut avancer des meilleures raisons pour elles que contre elles, ces raisons prévaudront, sinon elles tomberont d'elles-mêmes. On ne peut pas actuellement dire aux hommes de ne pas penser et de ne pas lire. Les ouvrages qui ne font qu'examiner les principes des gouvernements, inviter les hommes à raisonner et à réfléchir, montrer les erreurs et les perfections des différents systèmes, ont droit de paraître. S'ils n'excitent pas l'attention, ils ne sont pas dignes d'un procès. Et s'ils le font, les poursuites deviendront nulles, puisqu'elles ne sauraient s'étendre jusqu'à prohiber la lecture. Ce serait un jugement contre le public et non pas contre l'auteur, et la méthode la plus efficace d'exciter ou de hâter les révolutions. Dans tous les cas qui ont universellement rapport à une nation touchant les systèmes de gouvernement, un jury de 12 hommes n'est pas compétent pour décider. Ou il n'y a pas de témoins à examiner, pas de faits à prouver, quand toute l'affaire est devant le public en général, le mérite ou le démérite dépendant de son opinion, lorsqu'une cour de justice ne peut rien connaître de plus que ce que chaque individu connaît, chaque agrégation de 12 personnes formerait un aussi bon jury l'une que l'autre et casserait probablement le jugement l'une de l'autre, ou, à cause des différentes opinions de ses membres, ne serait pas en état d'en former un. C'est une question de savoir si une nation approuvera un ouvrage ou un plan. Mais c'est une autre question de savoir si elle confiera à un pareil jury le pouvoir de déterminer si cette nation a droit ou non de réformer son gouvernement. Je fais mention de ces cas afin que M. Burke puisse voir que je n'ai pas écrit sur le gouvernement sans réfléchir sur ce qu'était une loi, ainsi que sur ce que sont des droits. Le seul jury efficace dans de pareils cas serait une convention de toute la nation élue avec candeur. Car, dans tous les cas semblables, la nation est le voisinage. Si M. Burke veut proposer un pareil jury, je renoncerai au privilège d'être citoyen d'un autre pays, et, me soumettant à sa proposition, j'attendrai l'issue de son jugement, pourvu qu'il veuille faire la même chose. Car mon opinion est que son ouvrage et ses principes seraient condamnés au lieu des miens. Quant aux préjugés que les hommes ont contractés de l'éducation et de l'habitude, en faveur de telle ou telle forme de gouvernement, ces préjugés ont encore à subir l'épreuve de la raison et de la réflexion. Dans le fait, de tels préjugés ne sont rien. Personne n'est prévenu en faveur d'une chose lorsqu'il sait qu'elle est mauvaise. Et quand il est convaincu qu'elle ne l'est pas, son préjugé s'évanouit. Nous n'avons qu'une idée défectueuse du préjugé. On pourrait dire que jusqu'à ce que les hommes parviennent à penser pour eux-mêmes, tout est chez eux préjugé et non pas opinion. Car une opinion proprement dite est le résultat de la raison et de la réflexion. Je fais cette remarque pour que M. Burke n'ait pas trop de confiance aux préjugés ordinaires du pays. Je ne crois pas qu'on ait jamais traité le peuple d'Angleterre avec candeur et avec justice. Les partis et les hommes qu'on appelait chefs lui en ont toujours imposé. Il est temps que la nation se montre supérieure à ses momeries. Il est temps qu'elle bannisse cette indolence et cette inattention qui ont si longtemps encouragé l'augmentation excessive des taxes. Il est temps qu'elle renonce à ses chansons et à ses santés qui sont destinées à rendre esclaves et qui tentent d'étouffer la réflexion. Sur de pareils sujets, les hommes n'ont qu'à penser, et ils ne pourront ni mal agir, ni être induits en erreur. Dire qu'un peuple quelconque n'est pas propre à la liberté, c'est faire la pauvreté l'objet de son choix, et dire qu'il aimerait mieux être chargé de taxes que de n'en pas avoir. Si on pouvait trouver une pareille chose, on prouverait également que ceux qui le gouvernent ne sont pas propres à le gouverner, car ils font partie de ce même peuple. Mais en admettant qu'il faille changer les gouvernements dans toute l'Europe, cela peut certainement se faire sans convulsion et sans vengeance. Il ne vaut pas la peine de faire des changements ou des révolutions, à moins que ce ne soit pour de grands avantages nationaux. Quand une nation verra ses avantages et les voudra, le danger sera, comme en Amérique et en France, pour ceux qui s'y opposeront. Et avec cette réflexion, je termine ma préface. À Londres, le 9 février 1792, signé Thomas Paine. Droits de l'homme, seconde partie, introduction. On peut appliquer à la raison et à la liberté les paroles d'Archimède sur les pouvoirs mécaniques. Si l'on trouvait un point d'appui, il serait possible de soulever le monde. La révolution de l'Amérique offrit en politique ce qui n'était qu'une théorie, en fait de mécanique. Les gouvernements de l'Ancien Monde avaient pris de telles racines, la tyrannie et l'habitude dominaient tellement les esprits, qu'il était impossible qu'on commençât en Asie, en Afrique ou en Europe à réformer l'état politique de l'homme. La liberté avait été chassée de toutes les parties du globe. On regardait la raison comme une rebelle et l'esclavage de la crainte empêchait les hommes de penser. Mais telle est la nature irrésistible de la vérité qu'il ne lui faut que la liberté de paraître. Le soleil n'a pas besoin d'inscription pour être distingué des ténèbres. Et à peine les gouvernements de l'Amérique furent-ils connus dans le monde que le despotisme reçut un échec et que l'homme commença à espérer du soulagement. L'indépendance de l'Amérique, considérée simplement sous le point de vue de sa séparation de l'Angleterre, n'aurait été qu'une chose de peu d'importance si elle n'avait pas été accompagnée d'une révolution dans les principes et dans la pratique des gouvernements. L'Amérique n'a pas combattu pour elle seule, mais pour le monde entier. Elle a étendu ses vues au-delà des avantages particuliers qu'elle pouvait recueillir. Le Essoi même, quoique soudoyé pour l'assujettir, vivra peut-être assez longtemps pour bénir sa défaite. Et l'Angleterre, en condamnant les vices de son gouvernement, se réjouira de son manque de succès. Comme l'Amérique était le seul endroit du monde politique où l'on put poser les principes d'une réforme universelle, c'était aussi le meilleur endroit du monde actuel. Un concours de circonstances contribuait non seulement à produire ces principes, mais encore à les faire parvenir à une taille gigantesque. Les scènes majestueuses que ce pays offre à l'œil du spectateur font naître et encouragent les grandes idées. Il y voit la nature en grand. Les vastes objets qu'il contemple donnent l'essor à son imagination et lui font partager la grandeur qu'il contemple. Ses premiers habitants furent des émigrants de différentes nations de l'Europe, professant différentes religions, qui fuyaient les persécutions des gouvernements de l'Ancien Monde et qui se retrouvaient dans le Nouveau, non pas comme ennemis, mais comme frères. Les besoins qui accompagnent nécessairement la culture d'un désert produisirent parmi eux un état de société que les pays, longtemps harassés par les querelles et les intrigues des gouvernements, avaient négligé de chérir. Dans une pareille situation, l'homme devient ce qu'il doit être. Il voit ses semblables non pas comme des ennemis naturels, mais comme ses frères. Et l'exemple prouve au monde artificiel qu'il faut rétrograder vers la nature pour obtenir des instructions. Des progrès rapides que l'Amérique fait dans tous les genres d'amélioration, on peut raisonnablement conclure que si les gouvernements de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe avaient commencé par des principes semblables à ceux de l'Amérique, ou que s'ils ne s'en étaient pas écartés de bonne heure, ces pays seraient dans un état bien plus florissant que celui dans lequel ils sont. Une longue suite de siècles n'offre à la contemplation que leur misère. Un spectateur qui n'aurait aucune idée du monde et qui n'y serait placé que pour faire des observations s'imaginerait qu'une grande partie de l'ancien monde est nouvellement peuplée et qu'elle lutte encore contre les difficultés et les inconvénients qui accompagnent un nouvel établissement. Il supposerait que ces multitudes de pauvres qui fourmillent dans les anciens pays sont des gens qui n'ont pas encore eu le temps de se faire un sort. Il serait bien éloigné de penser qu'ils sont une des conséquences de ce que l'on appelle dans ces pays-là « gouvernement ». Si l'on passe de la contemplation des états les plus misérables de l'ancien monde à celle de ceux qui sont parvenus à un certain degré d'amélioration, on trouve toujours la main avide du gouvernement se fourrant dans toutes les crevasses de l'industrie et s'appropriant les dépouilles de la multitude. L'invention travaille continuellement à trouver de nouveaux prétextes de revenus et d'impôts. Elle veille la prospérité comme sa proie et elle ne la laisse jamais échapper sans une contribution. Comme les révolutions ont commencé, et comme il est toujours plus probable qu'une chose ne commencera pas qu'il ne l'est qu'elle ne continuera pas lorsqu'elle est commencée, il est naturel de s'attendre à d'autres révolutions. Les dépenses incroyables et toujours croissantes qu'exigent les anciens gouvernements, les guerres nombreuses qu'ils entreprennent ou qu'ils excitent, les entraves qu'ils mettent à la civilisation universelle et au commerce, les oppressions et les usurpations dont ils se rendent coupables chez eux, ont épuisé la patience et les trésors des nations. Dans de pareilles circonstances, et avec les exemples qui existent, on doit s'attendre à des révolutions. Elles font le sujet de toutes les conversations et peuvent être considérées comme l'ordre du jour. S'il est possible d'introduire des systèmes de gouvernement moins dispendieux et qui contribuent davantage au bonheur général que ceux qui ont jusqu'ici existé, toute tentative pour s'opposer à leur progrès deviendra finalement inutile. La raison, comme le temps, se frayera elle-même un passage, et le préjugé succombera dans un combat avec l'intérêt. Si la paix, la civilisation et le commerce universel doivent un jour être le partage du genre humain, cela ne saurait s'accomplir que par une révolution dans le système des gouvernements. Tous les gouvernements monarchiques sont militaires. La guerre est leur métier, le pillage et les impôts leur objet. Tant qu'il existera de pareils gouvernements, on ne saurait compter sur un seul jour de paix. Qu'est-ce que l'histoire des gouvernements monarchiques, sinon un tableau dégoûtant de la misère humaine et un répit accidentel de quelques années de tranquillité? Épuisés de guerres et de massacres, ils se reposent quelques instants et les appellent paix. Ce n'est sûrement pas là le sort que le ciel destinait à l'homme. Et si c'est là ce que l'on nomme monarchie, on aurait bien pu mettre la monarchie au nombre des péchés des Juifs. Les révolutions qui ont autrefois eu lieu dans le monde n'avaient rien qui intéressât la masse du genre humain. Elles ne s'étendaient qu'à des changements d'hommes et de mesures, mais non pas de principes. Et elles parurent dépérir avec les autres affaires du moment. Ce que nous contemplons aujourd'hui peut, en quelque sorte, être appelé une contre-révolution. Les conquêtes et la tyrannie avaient, dans le commencement des siècles, dépouillé l'homme de ses droits, maintenant il les reprend. Et comme le courant de toutes les affaires humaines a son flux et son reflux dans des directions opposées, il en est de même de celui-ci. Le gouvernement fondé sur une théorie morale, sur un système de paix universel, sur les droits indestructibles de l'homme, reflue à présent de l'Occident à l'Orient par une impulsion bien plus considérable que le gouvernement de l'épée ne coula de l'Orient à l'Occident. Ces progrès intéressent non seulement les simples individus, mais même les nations, et ils promettent une ère nouvelle à l'espèce humaine. Le danger auquel le succès des révolutions est le plus exposé est celui de les tenter avant que les principes sur lesquels elles doivent être assises et que les avantages qui doivent en résulter soit suffisamment entendu. Presque tout ce qui appartient aux circonstances d'une nation a été absorbé et confondu dans le mot général et mystérieux de « gouvernement ». Quoiqu'il se garde bien de prendre sur son compte les erreurs qu'il commet et les maux qu'il occasionne, il ne manque jamais de s'attribuer tout ce qui a l'apparence de prospérité. Il s'arroge l'honneur dû à l'industrie en se disant, d'une manière pédantesque, la cause de ses effets. Et profitant du caractère général de l'homme, il s'attribue le mérite qui appartient à celui-ci comme être social. Il pourra donc être utile, dans ce temps de révolution, de distinguer les choses qui sont les effets du gouvernement d'avec celles qui ne le sont pas. Le meilleur moyen de s'acquitter de cette tâche sera d'examiner la société, la civilisation et les conséquences qui en résultent comme des choses différentes de celles que l'on appelle gouvernement. En commençant par cet examen, nous serons en état d'attribuer les effets à leur propre cause et d'analyser la masse des erreurs communes.